Colabrognon de Romain Rolland, huitième partie. Je m'en revins à Clamecy. Il s'agissait de rebâtir mon logement, sans ouvriers et sans argent. Ce n'était pas pour m'arrêter. Ce que j'ai vissé sous mon front n'est pas pardieu dans mon talon. Je commençai par visiter soigneusement l'emplacement de l'incendie, faisant le tri de tout ce qui pouvait servir. Poutres rongées, briques noircies, vieilles ferrures, les quatre murs branlants et noirs comme un bonnet de Ramona. Puis j'allai en catimini à Chevroche, dans les carrières, piocher, gratter, ronger les os de la terre, la belle pierre chaude aux yeux et saignante, où l'on voit des coulées comme de sang caillé. Et même il se pourrait que j'eusse, sur le chemin à travers la forêt, aider quelque vieux chêne au bout de sa carrière à trouver le repos. Peut-être ce n'était pas permis. Il se peut aussi. Mais si l'on ne devait jamais faire que ce qui est permis, la vie serait trop difficile. Les bois sont à la ville, et c'est pour en user. On en use. Chacun sans bruit, il va sans dire. Et l'on n'abuse pas, on pense. Après moi, les autres. Mais prendre n'était rien, il fallait emporter. Grâce aux voisins, j'en vins à bout. L'un me prêtant son char, l'autre ses bœufs, ou ses outils, ou plutôt un coup de main, parce qu'il n'en coûte rien. On peut tout demander au prochain, voire sa femme, or qu'il vous donne son argent. Je le comprends. L'argent est ce qu'on peut avoir, ce qu'on aura, ce qu'on aurait avec l'argent. Tout ce qu'on rêve. Le reste, on l'a. On ne l'a guère. Le jour où nous pûmes enfin, moi et mon robinet, dit Binet, commencer à dresser les premiers échafauds, l'effroi était venu. On me traitait de fou. Mes enfants me faisaient des scènes chaque jour, et les plus indulgents me conseillaient d'attendre au moins jusqu'au printemps. Mais je n'écoutais rien. Rien ne me plaît autant que de faire enrager les gens et les régents. Et je le savais bien que je ne pourrais pas, à moi seul, et l'hiver, bâtir une maison. Mais il me suffisait d'une cabane, un toit, une cage à lapins. Sociable, je suis, oui, mais à condition de l'être si je veux, et de ne l'être point quand il me plaît. Je suis bavard, j'aime à causer avec les autres, oui, mais je veux, avec moi, pouvoir causer aussi, seul à seul, à mes heures. De tous mes compagnons, c'est le meilleur. J'y tiens. Et pour le retrouver, je m'en irai nu-pied sous la bise et sans chausse. C'était donc pour m'entretenir avec moi, tout à loisir, que je m'obstinais à construire, en dépit du qu'en dira-t-on, ma maison, et ricanant des beaux sermons de mes enfants. Aïe! Mais je ne ris pas le dernier. Un matin de la fin d'octobre, que la ville s'encapuchonnait sous les frimas et que luisait sur les pavés la bave d'argent du verglas, en montant à mon échafaud, je glissai sur un des barreaux. Et paf ! Je me trouvai en bas. Plus vite que d'en bas, je n'étais arrivé. Binet criait. « Il s'est tué !» On accourait me relever. J'étais vexé, je dis. « Eh, je l'ai fait exprès !» Je voulus me lever seul. Aïe, la cheville, la chevillette. Je retombai. La chevillette était cassée. Sur un brancard, on m'emporta. Martine, auprès, levait les bras. Les voisines m'escortaient, se lamentant et commentant l'événement. Nous avions l'air d'un saint tableau. Le Fils de Dieu mis au tombeau. Et les maris ne ménageaient leurs cris, leurs gestes et leurs pas. Ils eussent réveillé un mort. Moi, je ne l'étais pas, mais je feignis de l'être. C'était le mieux pour ne pas recevoir cette pluie sur mon dos. Et l'air doux, immobile, la tête renversée et la barbe tendue en pointe vers le haut, je rageais dans mon cœur, tout en faisant le beau. Chapitre 13. La lecture de Plutarque. Et maintenant, me voici retenu par la patte. Par la patte. Bon Dieu, ne pouvais-tu me casser, si cela t'amusait, une côte ou un bras, et me laisser mes piliers? Je n'en aurais pas moins jeun, mais non jeun, écroulé. Ah, le mauvais, le maudit! Son saint nom soit béni. On dirait qu'il ne cherche qu'à vous faire enrager. Il sait que plus m'est cher que tout bien de la terre, que travail, que bombance, qu'amour et qu'amitié, celle que j'ai conquise, la fille non des dieux mais des hommes, ma liberté. C'est pourquoi, dans ma niche, il doit rire le matin. Il m'a lié par le pied. Et je contemple, à présent, étendu sur le dos, ainsi qu'un scarabée, l'étoile d'araignée, les poutres du grenier. C'est là ma liberté. Ouais, mais tu ne me tiens pas encore, mon bonhomme. Ligote ma carcasse, ficelle, attache, entoure. Allons, encore un tour, comme on fait au poulet que l'on tourne à la broche. À présent, tu me tiens? Et l'esprit, qu'en fais-tu? Aga, voilà parti avec ma fantaisie. Tâche de les rattraper. Il te faudra de bonnes jambes. Ma commère fantaisie n'a pas la cuisse cassée. Allons, cours, mon ami. Je dois dire que d'abord, je fus de méchante humeur. La langue m'était laissée, j'en usais pour pester. Il ne faisait pas bon ces jours-là à m'approcher. Je savais pourtant bien que je ne pouvais m'en prendre qu'à moi seul de ma chute. Et je ne le savais que trop. Tous ceux qui venaient me voir me le cornaient aux oreilles. « On te l'avait bien dit! Quel besoin avais-tu de grimper comme un chat, un barbon de ton âge? On t'avait averti! Mais tu ne veux rien entendre! Faut toujours que tu trottes! Eh bien, trotte à présent! Tu ne l'as pas volé !» Belle consolation! Quand vous êtes misérable, s'évertuez à prouver pour vous ragaillardir par-dessus le marché que vous êtes un sot. Lamartine, mon gendre, ami, indifférent, tous ceux qui venaient me voir, ils s'étaient donné le mot. Et moi, je devais subir leurs objurgations, sans bouger, pris au piège, et rageant à crever. Jusqu'à cette moutarde de Glody qui me dit « Tu n'as pas été sage, grand-père, c'est bien fait !» Je lui lance à mon bonnet et je criai « Foutez-moi le camp !» Alors je restai seul. Et ce ne fut pas plus gai. Lamartine, bonne fille, insistait pour qu'on mît mon matelas en bas dans l'arrière-boutique. Mais moi, j'avoue qu'au fond, j'en eusse été bien aise. Mais moi, quand j'ai dit non une fois, crebleu, c'est non. Et puis, on n'aime pas, quand on est impotent, à se montrer aux gens. Lamartine, inlassable, revenait à la charge. Harcelante comme sont les mouches et les femmes. Si elle n'eût en parlé, je pense que j'aurais cédé. Mais elle y mettait trop d'obstination. Si j'avais consenti, elle eût du matin au soir trompété sa victoire. Je l'envoyais promener. Et naturellement, c'est ce que tout le monde fit, hors moi, bien entendu. On me laissa morfondre au fond de mon grenier. « Ne te plains pas, Cola, c'est toi qui l'as voulu !» Mais la raison, la vraie, pourquoi je m'obstinais, je ne la disais pas. Quand on n'est plus chez soi, quand on est chez les autres, on a peur de gêner, on ne veut rien leur devoir. C'est un mauvais calcul si l'on veut se faire aimer. La pire des sottises est de se faire oublier. On m'oubliait très bien. On ne me voyait plus, on ne venait plus me voir. Même Glody me laissait. Je l'entendais qui riait en bas, et dans mon cœur, je riais en l'entendant, mais je soupirais aussi, car j'aurais bien voulu savoir pourquoi elle riait. L'ingrate, je l'accusais et je pensais qu'à sa place, j'en aurais fait autant. Amuse-toi, ma belle. Seulement, pour s'occuper quand on ne peut plus bouger, il faut bien faire un peu le job qui peste sur son fumier. Un jour que sur le mien, maussade, je gisais, Paillard vint. Ma foi, je ne le reçus pas trop bien. Il était là devant moi, assis au pied du lit. Il tenait précieusement un livre empaqueté. Il tâchait de causer et tâtait sans succès un sujet et puis l'autre. Je leur tordais le cou à tous, d'un mot, l'air furibond. Ils ne savaient plus que dire. Tout sautait, tapotait sur le bois de mon lit. Je le priai de cesser. Alors il resta quoi et n'osait plus bouger. Moi, je riais sous cape. Je pensais, « Mon bonhomme, tu as des remords maintenant. Si tu m'avais prêté l'argent que je demandais, je n'aurais pas été contraint à faire le maçon. Je me suis cassé la jambe. Attrape, c'est bien fait, car c'est ta ladrerie qui m'a mis où je suis. » Donc, il ne se risquait plus à m'adresser un mot. Et moi, qui me forçais aussi à tenir ma langue et qui mourais d'envie de la remuer, j'éclatais. « Enfin, parle !» lui dis-je. « Te crois-tu au chevet d'un mourant ? On ne vient pas chez les gens pour se taire, que diable ! Allons, parle, où va-t'en ? Ne roule pas les yeux, ne tripote pas ce livre. Qu'est-ce que tu tiens là ?» Le pauvre homme se leva. « Je vois bien que je t'irrite, Colla, et je m'en vas. J'avais porté ce livre. Vois-tu, c'est un Plutarque, « Vie des hommes illustres », translaté en François par l'évêque d'Auxerre, messire Jacques Amyot. Je pensais... » Il n'était pas encore tout à fait décidé. « Que peut-être tu trouverais... » Dieu, que cela lui coûtait !« Plaisir, consolation, veux-je dire, en sa compagnie. » Moi, qui savais combien ce vieux thésauriseur, qui chérissait ses livres encore plus que ses écus, souffrait de les prêter, lorsqu'on en touchait un dans sa bibliothèque, il vous faisait une mine d'amoureux déconfit qui verrait un soudard prendre la gorge à sa belle. Je fus touché de la grandeur du sacrifice. Je dis, « Vieux camarade, tu es meilleur que moi, je suis un animal, je t'ai bien rabroué. Allons, viens m'embrasser. » Je l'embrassai. Je pris le livre. Il aurait bien voulu encore me le reprendre. « Tu en auras grand soin !»« Sois tranquille, lui dis-je. Ce sera mon oreiller. » Il partit à regret, l'air pas trop rassuré. Et je restai avec Plutarque de Chéronée, un volume petit, ventru, plus gros que long, de 1300 pages, bien serrés et bondés. On avait empilé les mots comme du blé dans un sac. Je me dis, « Il y a là de quoi manger pendant 3 ans, et sans arrêt, pour 3 baudets. » D'abord, je me divertis à regarder, au début de chacun des chapitres, dans des médaillons ronds, les têtes de ces illustres, coupées et empaquetées de feuilles de laurier. Il ne leur manquait plus qu'un brin de persil au nez. Je pensais, « Que font ces Grecs et ces Romains ? Ils sont morts, et nous sommes vivants. » Que pourront-ils me raconter que je ne sache aussi bien qu'eux ? Que l'homme est un animal fort méchant, mais plaisant ? Que le vin gagne en vieillissant, la femme non ? Et qu'en tous les pays, les grands croquent les petits, et que les croquants croquaient, que les petits se rient des grands ? Tous ces hableurs romains vous font de longs discours. J'aime bien l'éloquence, mais je les préviens d'avance qu'ils ne parleront pas seuls. Je leur clorai le bec. » Là-dessus, je feuilletai le livre, d'un air condescendant, en laissant distraitement mes regards ennuyés tomber sur une ligne au long de la rivière. Et, dès le premier coup, je fus pris, mes amis, quelle pêche ! Le bouchon ne flottait pas sur l'eau, qu'il s'enfonçait, et je retirai de là, quelle carpe ! Quel brochet ! Des poissons inconnus, d'or, d'argent, irisés, vêtus de pierreries et semant autour d'eux une pluie d'étincelles. Et qui vivait, dansait, qui se bandait, sautait, palpitait des ouïes et battait de la queue. Moi qui les croyais morts. À partir de ce moment, le monde aurait pu crouler, je n'eusse rien remarqué. Je regardais ma ligne, ça mordait. « Quel monstre va sortir de l'onde cette fois ?» Et blanc, le beau poisson qui vole au bout du fil, avec son ventre blanc et sa côte de maille, verte comme un épi, ou bleu comme une prune et luisant au soleil. Les jours que j'ai passés là, les jours ou les semaines, sont le joyau de ma vie. Bénie ma maladie. Et bénis soient mes yeux, par où s'infiltre en moi la vision merveilleuse enclose dans les livres. Mes yeux de magicien, qui sous la broderie des signes gras et serrés, dont le noir troupeau chemine entre les deux fossés des marges sur la page, font surgir les armées disparues, les villes écroulées, les beaux parleurs de Rome et les rudes joueurs, les héros et les belles qui les menèrent par le nez, le grand vent sur les plaines, la mer ensoleillée, et le ciel d'Orient et les neiges d'antan. Je vois passer César, pâle, grêle et menu, couché dans sa litière, au milieu des soudards qui suivent en grognant, et ce goinfre d'Antoine qui s'en va par les champs avec tous ses buffets, sa vaisselle, ses putains, pour baffrer à l'orée de quelques verres bocages, qui boit, rend et reboit, qui mange à son dîner 8 sangliers rôtis et qui pêche à la ligne un vieux poisson salé. Et Pompée, compassé, que Flora mord d'amour, et le port Liorcette avec son grand chapeau et son manteau doré, sur lequel sont pourtraits la figure du monde et les cercles du ciel, et le grand Artaxerce, régnant comme un taureau sur le blanc et noir troupeau de ses 400 femmes, et le bel Alexandre, habillé en Bacchus, qui retourne des Indes, dessus un échafaud, traîné par 8 chevaux, couvert de ramées fraîches et de tapis de pourpre, au son des violons, des fifres, des hautbois, qui boit et qui festoie avec ses maréchaux, des fleurs sur leurs chapeaux, et son armée qui suit en trinquant, et les femmes, telles des cabris sautants. N'est-ce pas une merveille? La reine Cléopâtre, Lamia, la flûtiste, et Statira, si belle qu'on avait mal aux yeux lorsqu'on la regardait, à la barbe d'Antoine, d'Alex ou d'Artaxerce. Je les ai, s'il me plaît. J'en jouis, je les possède. J'entre dans Ecbatane, je bois avec Thaïs, je couche avec Roxane, j'emporte sur mon cou, dans un paquet de hardes, Cléopâtre emballée. Avec Antiochus, rougissant et rongé de fièvre pour Stratonis, je brûle pour ma belle-mère. La curieuse affaire. J'extermine les Gaules, je viens, je vois, je vins, et, ce qui me plaît bien, le tout sans qu'il m'en coûte une goutte de sang. Je suis riche. Chaque histoire est une caravelle qui m'apporte des Indes ou bien de Barbarie, les métaux précieux, les vieux vins dans les outres, les animaux bizarres, les esclaves capturés, les baudrilles. Quel poitrail, quelle croupe! C'est à moi tout cela. Les empires vécurent, grandirent et sont morts pour mon amusement. Quel carnaval est-ce là? Il semble que je sois tour à tour tous ces masques. Je me coule en leur peau, je m'ajuste leurs membres, leurs passions, et je danse. Je suis en même temps le maître de la danse, je mène la musique, je suis le bon Plutarque. C'est moi, Ouida, c'est moi qui ai mis par écrit. Je fus bien inspiré ce jour-là, n'est-ce pas? Ces petites drôleries. Qu'il est beau de sentir la musique des mots et la ronde des phrases vous emporter, dansant et riant dans l'espace, libre des liens du corps, des mots de la vieillesse. L'esprit, mais c'est le bon Dieu, loué soit le Saint-Esprit. Quelquefois, arrêté au milieu de l'histoire, j'imagine la suite. Puis, je compare l'œuvre de ma fantaisie et celle que la vie ou que l'art a sculptée. Quand c'est l'art, bien souvent je devine l'énigme, car je suis un vieux renard, je connais toutes les ruses, et je ris, d'eux dans ma barbe, de les avoir éventées. Mais quand c'est la vie, je suis souvent en défaut. Elle déjoue nos malices, et ses imaginations passent de loin les nôtres. Ah, la folle commère! Il n'est que sur un point qu'elle ne se met guère en frais de varier son récit. Celui qui clôt l'histoire. Guerre, amour, facétie, tout finit par le plongeon que vous savez, au fond du trou. Là-dessus, elle rabâche. C'est comme une façon d'enfant capricieux qui brise ses jouets quand il en a assez. Je suis furieux, je lui crie « Vilain brutal, veux-tu me le laisser ?» Je le lui prends des mains. Trop tard, il est cassé. Et je goûte une douceur à bercer, comme glaudit les débris de ma poupée. Et cette mort qui vient, comme l'heure à l'horloge, à chaque tour du cadran, prend la beauté d'un refrain. Sonnez, cloches et bourdons, bourdonnez, ding-ding-dong. Je suis Cyrus, celui qui a conquis l'Asie, l'empereur des Persians, et te prie, mon ami, que tu ne me portes envie de ce trépeu de terre qui couvre mon pauvre corps. Je relis l'épitaphe aux côtés d'Alexandre, qui frémit dans sa chair, prête à lui échapper, car il lui semble ouïr déjà sa propre voix qui monte de la terre. « Oh, Cyrus, Alexandre, que vous m'êtes plus proche lorsque je vous vois mort !»« Les vois-je ? Ou si je rêve ?» Je me pince, je dis « Allons, Colla, dors-tu ?» Alors, sur le rebord de la tablette, près de mon lit, je prends les deux médailles. Je les ai déterrées dans ma vigne l'an passé. De Commode poilu, habillé en Hercule, et de Crispine Augusta, avec son menton gras, son nez de pigrièche. Je dis « Je ne rêve point, j'ai bien les yeux ouverts, je tiens Rome sous mon pouce. » Le plaisir de se perdre en cogitation sur des pensées morales, disputer avec moi, remettre en question les problèmes du monde que la force a tranchés, passer le Rubicon. Non, rester sur le bord. Passerons-nous ou non ? Se battre avec Brutus, ou bien avec César, être de son avis, puis de l'avis contraire, et si éloquemment, et s'embrouiller si bien qu'on ne sait à la fin de quelle partie on tient. C'est le plus amusant. On est plein du sujet, on part dans des discours, on prouve, on va prouver, on réplique, on riposte, corps à corps, coup de tête, prime haute, pars-moi cette botte. Et puis, en fin de compte, on se trouve enferré, être battu par soi. J'en suis estomaqué. C'est la faute à Plutarque. Avec sa langue dorée et son air bonhomé de vous dire « Mon ami, on se trouve toujours, toujours de son avis. » Et il en a autant qu'il change de récit. Bref, de tous ces héros, celui que je préfère, c'est immanquablement le dernier que j'ai lu. Aussi bien, ils sont tous soumis, ainsi que nous, à la même héroïne, attachés à son char. Triomphe de Pompée, qu'êtes-vous à côté ? Elle mène l'histoire. C'est à savoir fortune dont la roue tourne, tourne et jamais ne séjourne, en un état non plus que fait la lune, comme dit chez Sophocle Ménélas le cornard. Et cela est encore très bien réconfortant, pour ceux-ci qui, du moins, sont au premier croissant. Par moments, je me dis « Mais, Brugnon, mon ami, en quoi diable peut bien t'intéresser ceci ? Qu'as-tu à faire, dis-moi, de la gloire romaine ? Encore moins des folies de ces grands sacripants. Tu as assez des tiennes, elles sont à ta mesure. Que tu es désœuvré pour aller te charger des vices, des misères, des gens qui sont défunts depuis 1800 ans. Car enfin, mon garçon, c'est mon Brugnon rangé, sensé, bourgeois, clame si soit qui prône. Conviens-en, ton César, ton Antoine et Cléo leur catin, tes princes persians qui égorgent leurs fils et épousent leurs filles, sont de fiers chenapans. Ils sont morts. Dans leur vie, ils n'ont rien fait de mieux. Laisse en paix leur poussière. Comment un homme d'âge trouve-t-il du plaisir à ces insanités ? Regarde un peu ton Alexandre. N'es-tu pas révolté de le voir dépenser pour enterrer Héphaestion, ce beau mignon, les trésors d'une nation ? Passe encore de tuer. Graine humaine, mauvaise graine. Mais gaspiller l'argent ! On voit bien que ces drôles n'ont pas eu la peine de le faire pousser. Et tu trouves cela plaisant. Tu écarquilles tes gros yeux, tu es tout glorieux, comme si ces écus t'étaient sortis des doigts. S'ils en étaient sortis, tu serais un grand fou. Tu en es deux, pour trouver de la joie aux folies que les autres ont faites, et non pas toi. » Je réponds. « Brugnon, tu parles d'or, tu as toujours raison. Cela n'empêche pas que je ne me ferai fesser pour ces billevesées, et que ces ombres décharnées depuis 2000 années n'aient plus de sang que les vivants. Je les connais, et je les aime. Pour qu'Alexandre pleure sur moi, comme sur Clitus, je consens de grand cœur aussi à ce qu'il me tue. J'ai la gorge serrée quand je vois au Sénat César sous les poignards s'agitant aux abois, ainsi que la bête acculée entre les chiens et les veneurs. Je reste bouche bée quand passe Cléopâtre en sa barque dorée, avec ses Néréides appuyées au cordage et ses beaux petits pages nus comme des amours. Et j'ouvre mon grand nez afin d'aspirer mieux la brise parfumée. Je pleure comme un veau lorsqu'à la fin Antoine, sanglant, mourant, est ficelé, hissé par sa belle, penché à la lucarne de sa tour et qui tire de tout son corps. Pourvu, il est si lourd qu'elle ne le laisse pas tomber. Le pauvre homme qui lui tend les bras. Qu'est-ce donc qui m'émeut et qui m'attache à eux comme à une famille? Hé, ils sont ma famille, ils sont moi, ils sont hommes. Que je plains les pauvres déshérités qui ne connaissent point la volupté des livres. Il en est qui font fi du passé, fièrement, s'en tenant au présent. Cannes battées qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Oui, le présent est bon, mais tout est bon, corbleu. Je prends de toutes mains et je ne boude pas devant la table ouverte. Vous n'en médiriez point si vous la connaissiez. Ou bien c'est, mes amis, que vous devez avoir un mauvais estomac. Je comprends qu'on étreigne ce qu'on étreint, mais vous n'étreignez guère, et votre mie est maigre. Bien et peu, c'est bien peu. J'aime mieux beaucoup et bien. S'en tenir au présent, c'était bon, mes amis, au temps du vieil Adam, qui, lui, allait tout nu, faute de vêtements, et qui, n'ayant rien vu, ne pouvait aimer rien que sa côte femelle. Mais nous, qui avons l'heure de venir après lui dans une maison pleine, où nos pères, nos grands-pères et nos archi-grands-pères ont entassé et tassé ce qu'ils ont amassé, nous serions assez fous pour brûler nos greniers sous le prétexte que nos champs produisent encore du blé. Le vieil Adam, il n'était qu'un enfant. C'est moi, le vieil Adam, car je suis le même homme, et depuis, j'ai grandi. Nous sommes le même arbre, mais j'ai poussé plus haut. Chacun des coups qui fait saigner une des branches retentit dans ma feuillée. Les peines et les joies de l'univers sont miennes. Qui souffre, j'en pâtis. Qui est heureux, je ris. Bien mieux que dans la vie, je sens à travers mes livres la fraternité qui nous lie. Nous tous, les portes hautes et les portes couronnes. Car des uns et des autres, il ne reste que cendre, et la flamme, qui, nourrie de la moelle de nos âmes, monte, unique et multiple, vers le ciel, en chantant avec les mille langues de sa bouche sanglante la gloire du Tout-Puissant. Ainsi, je rêve dans mon grenier. Le vent s'éteint, la lumière tombe. La neige, du bout de ses ailes, frôle la vitre. L'ombre se glisse, mes yeux se brouillent. Je me penche sur mon livre, et je suis le récit qui dans la nuit s'enfuit. Mon nez touche le papier. Tel un chien à la piste, je renifle l'odeur humaine. La nuit vient, la nuit est venue, et mon gibier s'échappe et s'enfonce dans l'avenue. Alors je m'arrête au milieu de la forêt, et j'écoute, le cœur battant de la poursuite, la fuite. Pour mieux voir au travers de l'ombre, je ferme les yeux, et je rêve, immobile, étendu sur mon lit. Je ne dors guère, je rumine mes pensées. Je regarde parfois le ciel par la croisée. Lorsque j'étends le bras, je touche le carreau. Je vois la coupole d'ébène, que raide une goutte de sang une étoile filante. D'autres, il pleut du feu dans la nuit de novembre. et je pense à la comète de César. C'est peut-être son sang qui dans le ciel ruisselle. Le jour revient. Je rêve encore. Dimanche, les cloches chantent. De leur bourdonnement, ma fantaisie s'enivre. Elle emplit la maison, de la cave au grenier. Elle couvre mon livre. Ah, le pauvre paillard, de mes inscriptions. Ma chambre retentit des roues des chariots, des armées, des clairons et des hennissements. Les vitres tremblent, mes oreilles tintent, mon cœur craque, je vais crier. Ave César, imperator! Et mon gendre Florimond, qui est monté me voir, regarde par la fenêtre, bâille avec bruit, et dit « Il ne passe pas un chat dans la rue aujourd'hui. » Chapitre 14. Le roi boit. Saint-Martin, 11 novembre. Il faisait ce matin une douceur extrême. Elle cheminait dans l'air, tiède comme la caresse d'une peau satinée. Elle se frottait à vous comme un chat qui vous frôle. Elle coulait à la fenêtre comme un muscat doré. Le ciel avait levé sa paupière de nuée, et de son œil bleu pâle, paisible, me regardait. Et sur mon toit, je voyais un rayon de soleil blanc. Je me sentais alangui, vieille bête, et rêveur, tel un adolescent. J'ai renoncé à vieillir. Je remonte mes ans. Si cela continue, je serai marmot bientôt. Donc, mon cœur était plein de chimériques attentes, comme le bon Roger qui baie après Alcine. Je voyais toutes choses d'un regard attendri. Je n'aurais ce jour-là fait de mal à une mouche. Et j'avais vidé mon sac à malice. Et comme je me croyais seule, soudain j'aperçus Martine, assise dans un coin. Je n'avais pas remarqué lorsqu'elle était entrée. Elle ne m'avait rien dit, contre son habitude. Elle s'était installée, un ouvrage à la main, et ne me regardait point. J'éprouvais le besoin de faire part à d'autres du bien-être où j'étais, et je dis, au hasard, pour ouvrir l'entretien, tous les sujets sont bons. « Pourquoi donc le bourdon a sonné ce matin ?» Elle haussa les épaules et dit « Pour la Saint-Martin !» J'en tombais de mon haut. Dans les rêvasseries, quoi, j'avais oublié le dieu de ma cité ? Je dis « C'est la Saint-Martin ?» Et je vis surgir aussitôt, dans la troupe des damoiseaux et des dames de Plutarque, parmi mes amis nouveaux, l'ami vieille, il est de leur taille, surgir le cavalier qui taille avec son sabre son manteau. Eh, Martinet, mon vieux compère, se peut-il que j'aie oublié que c'était ton anniversaire?
Tu t'en étonnes, dit Martine. Il est grand temps. Tu oublies tout. Le bon Dieu, ta famille, les diables et les saints, Martinet et Martine. Rien n'existe pour toi, hors tes sacrés bouquins. »
Je ris. J'avais déjà remarqué son œil mauvais quand elle venait chaque matin et qu'elle voyait qu'avec Plutarque je couchais. Jamais femme n'aima les livres d'un amour désintéressé. Elle voit en eux des rivales ou des amants. Fille ou femme, quand elle lit, fait l'amour et trompe l'homme. De là que, quand elle nous voit lire, elle crie à la trahison.
C'est la faute à Martin, dis-je. On ne le voit plus. Pourtant, il lui restait la moitié du manteau. Il la garde, ce n'est point beau. Ma bonne fille, que veux-tu? Il ne faut se laisser oublier dans la vie. Qui se laisse oublier, on l'oublie. Retiens cette leçon.
Je n'en ai pas besoin, dit-elle. Où que je sois, nul ne l'ignore.
C'est vrai. On te voit bien, on t'entend mieux encore. Or, ce matin, que j'attendais ta querelle journalière. Pourquoi m'en as-tu privée? Elle me manque, viens me la faire.
Mais elle, sans tourner la tête, dit « Rien ne te fait, et je me tais. »
Je regardais sa figure obstinée,
qui sa lèvre mordait, pour piquer son ourlet. Elle avait l'air triste et battue, et ma victoire me pesait. Je dis « Viens m'embrasser au moins. À défaut de Martin, je n'ai pas oublié Martine. C'est ta fête. Allons, j'ai un cadeau pour toi. Viens le chercher. » Elle fronça le sourcil et dit « Mauvais plaisant. »
« Je ne plaisante pas, » dis-je.
« Viens, viens donc, tu verras. Je n'ai pas le temps. »
« Oh, fille dénaturée, quoi, tu n'as pas le temps de venir m'embrasser ?»
À regret, elle se leva. Méfiante, elle s'approcha. « Quel tour de Villon, quelle farce vas-tu me faire encore ?» Je lui tendis les bras.
« Allons, dis-je, baise-moi. »«
Et le cadeau ?» dit-elle.
« tu l'as, c'est moi. »«
Joli cadeau, le bel oiseau. »
« Vilain ou beau, tout ce que j'ai, je te le donne. Je me rends, sans condition, à discrétion. Fais de moi ce que tu voudras. »«
Tu consens à venir en bas ?»«
Pieds et poings liés, je me livre. »«
Et tu consens à m'obéir, à ce qu'on t'aime, à te laisser mener, gronder, choyer, soigner, humilier. »
J'ai abdiqué ma volonté.
« Ah ! Comme je vais me venger !» Ah, mon cher vieux, méchant garçon, que tu es bon, vieil entêté, m'as-tu fait assez enrager ? Elle m'embrassait, me secouait comme un paquet et me serrait sur son giron, tel un poupon. Elle ne voulut pas attendre une heure. On m'emballa, et Florimond et les mitrons, casqués du bonnet de coton, m'enfournèrent par l'escalier étroit, les pieds devant, la tête après, en bas, dans un grand lit, en une pièce claire, où Martine et Glodie me bordèrent, narguèrent, répétèrent 20 fois. « À présent, on te tient bien, vagabond !» Que c'est bon! Et depuis, je suis pris. J'ai jeté ma fierté au panier. À Martine, je me soumets, vieux marmousé. Et c'est moi, sans qu'il y paraisse, qui mène tout dans la maison. Martine désormais s'installe auprès de moi, souvent, et nous causons. Nous nous ressouvenons d'une autre fois déjà, il y a bien longtemps, où nous étions assis l'un près de l'autre, ainsi. Mais c'était elle alors qui se trouvait liée par le pied, s'étant fait une entorse, en voulant, une nuit, ah, la chatte amoureuse, sauter par la fenêtre pour courir après son galant. En dépit de l'entorse, je l'ai bien rossée. Elle en rit à présent et dit que je n'ai pas encore assez cogné. Mais alors, j'avais beau cogner et veiller, et pourtant, je suis assez malin. Elle l'était 10 fois plus que moi à la ruser et me filait entre les mains. Au bout du compte, elle n'était pas aussi bête que je la croyais. Elle sut bien garder sa tête, à défaut du reste. Et ce fut le galant, sans doute, qui l'a perdu, puisqu'il est aujourd'hui, puisqu'il est son mari. Elle rit avec moi de ses folies et dit, avec un gros soupir, que c'est fini de rire, les lauriers sont coupés, nous n'irons plus au bois. Et nous parlons de son mari. En brave femme, elle le juge honnête, en somme suffisant, pas amusant. Le mariage n'est pas fait pour le divertissement. « Chacun le sait, dit-elle, et toi mieux que personne. C'est ainsi, il faut se faire une raison. Chercher l'amour dans un époux est aussi fou que puiser l'eau dans un criblot. Je ne suis folle, je ne me cause de tracas en pleurant sur ce que je n'ai pas. De ce que j'ai, je me contente. Ce qui est bien comme il est. Point de regret. Tout de même, à présent, je vois combien est loin de ce qu'on veut ce que l'on peut, de ce qu'on rêve en sa jeunesse, ce qu'on est bien content d'avoir quand on est vieux ou qu'on va l'être. Et c'est touchant, ou ridicule, on ne sait pas lequel des deux. Tous ces espoirs, ces désespoirs, et ces ardeurs, et ces langueurs, et ces beaux vœux, et ces beaux feux de cheminée, pour arriver à faire cuire la marmite et trouver bon le pot-au-feu. Et il est bon, vraiment, il l'est assez pour nous, c'est tout ce que nous méritons. Mais si jadis on me l'eût dit... Enfin, il nous reste en tout cas, pour donner du goût au repas, notre rire, et c'est un fier assaisonnement. Il ferait manger des pierres. Riche ressource, et qui ne m'a jamais manqué, non plus qu'à toi, de pouvoir se moquer de soi, comme on fut sot et qu'on le voit. Nous ne nous en faisons pas faute, encore moins de nous moquer des autres. Parfois nous nous taisons, rêvassant, ruminant, moi le nez sur mon livre, elle sur son ouvrage. Mais les langues, tout bas, continuent de marcher, ainsi que deux ruisseaux qui cheminent sous terre et ressortent soudain, au soleil, en sautant. Martine, au milieu du silence, repart d'un grand éclat de rire, et les langues de reprendre leur danse. J'essayai de faire entrer Plutarque en notre compagnie. Je voulus faire goûter à Martine ses beaux récits et la manière pathétique dont je lis. Mais nous n'eûmes aucun succès. De la Grèce et de Rome, elle se souciait autant qu'un poisson d'une pomme. Lors même qu'elle voulait, afin d'être polie, écouter, au bout d'un instant, elle était loin, et son esprit courait les champs. Ou plutôt, il faisait sa ronde, du haut en bas de son logis. À l'endroit le plus palpitant de mon récit, quand savamment je ménageais l'émotion et préparais, en chevrotant, l'effet de la conclusion, elle m'interrompait pour crier quelque chose à Glody, ou bien à Florimond, à l'autre bout de la maison. J'étais vexée. Je renonçais. Il ne faut demander aux femmes de partager nos songes creux. La femme est la moitié de l'homme. Oui, da. Mais quelle moitié? Celle d'en haut? Ou si c'est l'autre? Ce n'est en tout cas le cerveau qui est commun. Chacun des deux a le sien, sa boîte à folie. Ainsi que deux surgeons, sortis d'un même tronc, c'est par le cœur qu'on communie. Je communie très bien. Bien que Barbon fané, ruiné et mutilé, je suis assez malin pour avoir, presque tous les jours, une garde du corps de jeunes et jolies commères d'alentour, qui, rangées autour de mon lit, me font joyeuse compagnie. Elles viennent, alléguant une nouvelle d'importance, ou un service à demander, un ustensile à emprunter. Tous les prétextes leur sont bons, à la condition de ne plus y songer, à peine entrées dans la maison. Une fois là, comme au marché, elles s'installent. Guillemie aux yeux gais, Huguette au nez joli, Jacotte l'entendu, Margueron, Alison et Gilette, et Massette autour du veau sous l'édredon. Et j'ai, nous bavardons, ma commère, comme des battants de cloche, et nous rions, quel carillon. Et je suis le gros bourdon. J'ai dans mon sac toujours quelques fines histoires qui chatouillent au bon endroit. Fait beau les voir pâmer. De la rue, on entend leur rire. Et Florimond, que mon succès dépite, me demande en raillant mon secret. Je réponds, « Mon secret? Je suis jeune, mon vieux. » Et puis, dit-il piqué, « c'est ton mauvais renom. Vieux coureurs font courir après eux les femelles. » « Sans doute, je réponds. N'a-t-on pas du respect envers un vieux soldat? On s'empresse à le voir. On se dit, « il revient du pays de la gloire. » Et celles-ci se disent, « Colas a fait campagne au pays de l'amour. » Il le connaît, il nous connaît, et puis, qui sait, peut-être encore il combattra. « Vieux polisson !» s'écrie Martine. « Ardez-moi ça, va-t-il pas s'aviser d'être encore amoureux ?»« Et pourquoi pas? C'est une idée. Puisqu'il en est ainsi, pour vous faire enrager, je m'en vais me remarier. »« Eh, remarie-toi, mon garçon, grand bien te fasse, il faut bien que jeunesse passe. » Saint-Nicolas, 6 décembre. Pour la Saint-Nicolas, hors de mon lit, dans un fauteuil, on me roula, entre la table et la fenêtre. Sous mes pieds, une chaufferette. Devant, un pupitre de bois, avec un trou pour la chandelle. Sur les 10 heures, la confrérie des mariniers, faiseurs de flots,
et ouvriers, compagnons de rivière, violons en tête, défila devant notre maison, bras dessus, bras dessous, dansant derrière leurs bâtons. Avant de se rendre à l'église, ils faisaient le tour des bouchons. En me voyant, ils m'acclamèrent. Je me levai, je saluai mon patron, qui me le rendit. Par la fenêtre, je serrai leurs pattes noires. Je versai dans l'entonnoir de leur grand gosier béant la goutte. Autant verser vraiment une goutte dedans un champ. Sur le midi, mes quatre fils vinrent m'offrir leurs compliments. On a beau ne pas très bien s'entendre, il faut s'entendre une fois l'an. La fête du père est sacrée. C'est le pivot autour duquel est accrochée la famille, comme un essaim. En la fêtant, elle resserre son faisceau et s'y contraint. Et moi, j'y tiens. Donc, ce jour-là, mes quatre gars se trouvèrent réunis chez moi. Ils n'en avaient beaucoup de joie. Ils s'aiment peu, et je crois bien que je suis le seul lien entre eux. À notre époque, tout s'en va de ce qui faisait l'union entre les hommes, la maison, la famille et la religion. Chacun croit seul avoir raison, et l'on vit chacun pour soi. Je ne ferai le vieux qui s'indigne et rechigne, et qui croit que le monde avec lui finira. Le monde saura bien s'en tirer, et je crois que les jeunes savent mieux ce qui leur convient que les vieux. Mais c'est un rôle ingrat que le rôle du vieux. Le monde autour de lui change, et s'il ne change aussi, plus de place pour lui. Or, moi, je n'entends pas de cette oreille-là. Je suis dans mon fauteuil, holà, holà, j'y reste. Et s'il faut, pour garder sa place, que l'on change d'esprit, je changerai. Ouida, je saurai m'arranger pour changer. En restant, bien entendu, le même. En attendant, de mon fauteuil, je regarde changer le monde et disputer les jeunes gens. Je les admire, et cependant, j'attends, discret, le bon moment pour les mener où je l'entends. Mes gaillards se tenaient devant moi autour de la table. Jean-François le Bigot, à droite. À gauche, Antoine le Huguenot, qui est établi à Lyon. Assis tous deux et sans se regarder, engoncés dans leur col, le cou raide et le croupion figé. Jean-François, florissant, les joues pleines, l'œil dur et le sourire aux lèvres, parlait de ses affaires intarissablement, se vantait, étalait son argent, ses succès, louait ses draps et Dieu qui les lui faisait vendre. Antoine, lèvres rasées, queue de barbe au menton, morose, droit et froid, parlait comme pour soi de son commerce de librairie, de ses voyages à Genève, de ses relations d'affaires et de foi, et louait aussi Dieu, mais ce n'était le même. Chacun parlait à tour de rôle, sans écouter le chant de l'autre, et puis reprenait son refrain. Mais à la fin, tous deux, vexés, commencèrent à traiter des sujets qui pouvaient mettre hors des gonds le compagnon. Celui-ci, les progrès de la religion vraie, celui-là, le succès de la vraie religion. Et cependant, ils s'obstinaient à s'ignorer. Et sans bouger, comme affligés tous les deux d'un torticolis, l'air furieux, d'une voix aigre, ils glapissaient leur mépris pour le dieu de l'ennemi. Debout, entre eux, les regardant, haussant les épaules et s'esclaffant, se tenait mon fils le sergent au régiment de Sacermort, et mon Michel le sacripant. Ce n'est pas un mauvais enfant. Il ne pouvait tenir en place, et tournait comme un loup en cage, tambourinait sur les carreaux, ou fredonnait. Taillot, taillot! S'arrêtait pour dévisager les deux aînés qui disputaient, leur éclater de rire au nez, ou leur couper brutalement la parole pour proclamer que deux moutons, qu'ils soient ou non marqués d'une croix rouge ou bleue, s'ils sont bien gras, sont toujours bons, et qu'on saura le leur montrer. Nous en avons mangé bien d'autres. À Nice, mon dernier garçon le regardait horrifié. À Nice, le très bien nommé, qui n'a pas la poudre inventée. Les discussions l'inquiètent. Rien au monde ne l'intéresse. il n'a de bonheur qu'à pouvoir bâiller en paix et s'ennuyer tout le long de la sainte journée. Aussi trouve-t-il diabolique la politique et la religion, ces inventions pour troubler le bon sommeil des gens d'esprit, ou l'esprit des gens qui sommeillent. Que ce que j'ai soit mal ou bon, puisque je l'ai, pourquoi changer? Le lit où l'on a fait son trou est fait par nous, est fait pour nous. Je ne veux pas de nouveaux draps. Mais qu'il le voulût ou non, on secouait son matelas. Et dans son indignation, afin d'assurer son repos, cet homme doux aurait livré tous les éveilleurs au bourreau. Pour le moment, l'air effaré, il écoutait parler les autres. Et dès que leur ton s'élevait, son cou rentrait dans ses épaules. Moi, tout oreille et tout yeux, je m'amusais à démêler en quoi ces quatre, devant moi, étaient de moi, étaient à moi. Ils sont pourtant mes fils, pour cela j'en réponds. Mais s'ils viennent de moi, ils en sont bien sortis. Et morbleu, par où diable y étaient-ils entrés? Je me tâte. Comment ai-je bien pu porter dans ma bedaine ce prêcheur, ce papelard et ce mouton enragé? Passe encore pour l'aventurier. Oh, nature traîtresse, ils étaient donc en moi. Oui, j'en avais les germes. Je reconnais certains des gestes, des façons de parler et même des pensées. Je me retrouve en eux, masqué. Le masque étonne, mais par-dessous, c'est le même homme. Le même. Un est multiple. Chaque homme porte en lui 20 hommes différents. Celui qui rit, celui qui pleure, celui qui est indifférent comme une souche, et à la pluie et au beau temps, le loup, le chien et la brebis, le bon enfant, le chenapan. Mais l'un des 20 est le plus fort, et s'arrogeant seul la parole, il clôt le bec aux 19 autres. De là vient que ceux-ci décampent, sitôt qu'ils voient la porte ouverte. Mes 4 fils ont décampé. Les pauvres gars. Mais à culpa, si loin de moi, ils sont si près. Et ce sont toujours mes petits. Quand ils disent des sottises, j'ai envie de leur demander pardon de les avoir fait sots. Heureusement qu'ils sont contents et qu'ils se trouvent beaux. Qu'ils s'admirent, j'en suis bien aise. Mais ce que je ne puis supporter, c'est qu'ils ne veuillent point tolérer que les autres soient laids, tous leurs sous s'il leur plaît. Dressés sur leurs ergots, se menaçant de l'œil et du bec, tous les 4, ils avaient l'air de coqs en colère, prêts à sauter. J'observais avec placidité, puis je dis « Bravo, bravo, mes agneaux, je vois qu'on ne vous tondrait pas la laine sur le dos. Le sang est bon, parbleu, c'est le mien, et la voix est meilleure. À présent qu'on vous a entendu, à mon tour, la langue me démange. » Et vous, faites repos. Mais ils n'étaient pas très pressés de m'obéir. Un mot avait fait éclater l'orage. Jean-François se levant en poignée d'une chaise, et mon Michel tirait sa longue épée, Antoine son couteau. Et Anis, il est fort pour mugir comme un veau, criait « Au feu, à l'eau !» Je vis venir l'instant où ces 4 animaux allaient s'entr'égorger. Je saisis un objet, le premier qui s'offrit à portée de mon poing. Justement, ce fut par hasard l'aiguillère aux 2 pigeons qui faisaient mon désespoir et l'orgueil de Florimond. Et sur la table, en 3 morceaux, sans y penser, je la brisai. Cependant que Martine, accourue, brandissait un chaudron fumant et menaçait de les en arroser. Il criait comme un troupeau d'ânons, mais quand je braie, il n'est baudé qui ne baisse pavillon. Je dis. Je suis le maître, ici, j'ordonne. Taisez-vous. Ah, ça, êtes-vous fou? Sommes-nous réunis afin de discuter le credo de Nicée? J'aime bien qu'on discute, ouida. Mais, s'il vous plaît, choisissez, mes amis, des sujets plus nouveaux. Je suis las de ceci. J'en suis assassiné. Que diable, discutez si pour votre santé il vous est ordonné, sur ce vin de Bourgogne, ou sur ce cervelas, sur ce qu'on peut voir, ou boire, ou toucher, ou manger. Nous mangerons, boirons afin de contrôler.
Mais discuter sur Dieu, bon Dieu, sur le Saint-Esprit, c'est montrer, mes amis, que d'esprit l'on a guère. Je ne dis pas de mal de ceux qui croient. Je crois. Nous croyons, vous croyez, tout ce qu'il vous plaira. Mais parlons d'autre chose. N'en est-il pas au monde? Chacun de vous est sûr d'entrer au paradis. Fort bien, j'en suis ravi. On vous attend là-haut, la place est retenue pour chacun des élus. Les autres resteront à la porte. C'est entendu. Eh, laissez le bon Dieu loger comme il lui plaît ses hôtes. C'est son office, et ne vous mêlez pas de faire sa police. À chacun son royaume. Le ciel à Dieu, à nous la terre. La rendre, s'il se peut, plus habitable est notre affaire. On n'est pas trop de tous pour en venir à bout. Croyez-vous qu'on pourrait se passer d'un de vous? Vous êtes tous les quatre utiles au pays. Il a autant besoin de ta foi, Jean-François, en ce qui a été, que de la tienne, Antoine, en ce qui devrait être, de ton humeur aventureuse, Aimon Michel, Canis, de ton immobilité. Vous êtes les quatre piliers. Qu'un seul fléchisse et la maison s'écroulera. Vous resteriez ruine inutile. Est-ce là ce que vous voulez? Bien raisonné, ma foi. Que diriez-vous de quatre mariniers qui, sur les flots, par le gros temps, au lieu de faire la manœuvre, ne penseraient qu'à disputer? Je me souviens d'avoir ouï, autant jadis, un entretien du roi Henri avec le duc de Nivernois. Ils gémissaient de la manie de leur François, acharnés à s'entre-détruire. Le roi disait « Ventre Saint-Gris, j'aurais envie pour les calmer qu'on me les cousit deux à deux dans un sac, moine enragé et prédiquant de l'évangile frénétique, et qu'en la Loire, ainsi qu'une portée de chat, on les jeta. » Et Nivernois, riant, disait « Pour moi, je me contenterai de les expédier, en ballot, dans cet îlot, où, nous dit-on, messieurs de Berne font déposer sur le rivage maris et femmes querelleurs. Qu'un mois après, quand le bateau vient les reprendre, on retrouve, roucoulant d'amour tendre comme des tourtereaux. Vous auriez bien besoin d'une cure pareille. Vous grognez, marmousez, vous vous tournez le dos. Eh, regardez-vous donc, enfant. Vous avez beau croire que vous êtes chacun pétri d'autre matière et bien mieux que vos frères. Vous êtes quatre moutures, eius dem farinae. Des brognons tout crachés, des bourguignons salés. Ardez-moi ce grand nez insolent qui s'étale en travers du visage, cette bouche entaillée largement dans l'écorce, entonnoir à verser le boire, ces yeux embroussaillés qui voudraient bien avoir l'air méchant et qui rient. Mais vous êtes signé. Voyez-vous pas qu'en vous nuisant, c'est vous-même que vous détruisez? Et feriez-vous pas mieux de vous donner la main? Vous ne pensez pas de même. La belle affaire. Eh, tant mieux. Voudriez-vous cultiver tous le même champ? Plus la famille aura de champs et de pensées, plus nous serons heureux et forts. Étendez-vous, multipliez et embrassez tout ce que vous pourrez de la terre et de la pensée. Chacun la sienne et tous unis. Allons, mes fils, embrassons-nous, afin que le grand nez brognon sur les champs allonge son ombre et renifle la beauté du monde. » Il se taisait, l'air rechigné, pinçant les lèvres. Mais on voyait qu'ils avaient peine à ne pas rire. Et soudain, Aimon Michel, partant d'un grand éclat bruyant, tendit la main à Jean-François en lui disant « Allons, l'aîné des nés, béné, bené, faisant la paix. » Ils s'embrassèrent. « Martine, hola, à nos santé !» Je remarquai à ce moment que tout à l'heure, en ma colère, en frappant avec les guerres, je m'étais coupé le poignet. Un peu de sang tachait la table. Antoine, toujours solennel, levant ma main, posa dessous son verre, y recueillit le jus de ma veine vermeille et dit pompeusement « Pour sceller notre alliance, buvons tous quatre dans ce verre. » « or ça, je dis, Antoine, gâter le vin de Dieu, pff, tu me dégoûtes, jette cette mixture. Qui veut boire mon sang tout pur, qu'il boive sec et pur son pio. » Là-dessus nous pintâmes, et sur le goût du vin, point nous ne disputâmes. »
Comme ils étaient partis, Martine, en me pansant la main, me dit
« Vieux scélérat, tu en es donc venu à tes fins cette fois. »«
Quelle fin veux-tu dire? À les mettre d'accord ?»«
Je parle d'autre chose. » »«
Et de quoi donc, alors ?»
Sur la table, elle montra les guerres brisées.
« Tu me comprends fort bien, ne fais pas l'innocent. Avoue. Tu avoueras.
Allons, à mon oreille, il ne le saura pas. »
Je jouais l'étonné, l'indigné, le niais, je niais. Mais je pouffais de rire. Pff, et je m'étranglais.
Elle me répéta. « Scélérat, scélérat. »
Je dis.
« Elle était trop laide. Écoute, ma bonne fille, il fallait que d'elle ou de moi l'un disparût. »
Martine dit. « Celui qui reste n'est pas plus beau. »
« Pour cet oiseau, qu'il soit laid tant qu'il lui plaira. Je m'en moque, je ne le vois pas. »
Veillée de Noël. Sur ses gonds huilés, l'année tourne, la porte se ferme et se rouvre. Telle une étoffe que l'on plie, les jours tombent, enfouis dans le coffre moelleux des nuits. Ils entrent d'un côté et ressortent de l'autre, croissant déjà d'un saut de puce à la Saint-Luce. Par une fente, je vois briller le regard de l'an nouveau. Assis sous le manteau de la grande cheminée, dans la nuit de Noël, je lorgne, comme du fond d'un puits, en haut le ciel étoilé, ses paupières qui clignotent, ses petits cœurs qui grelottent. Et j'entends venir les cloches, qui dans l'air lisse volent, volent, sonnant la messe de minuit. J'aime qu'il soit né, l'enfant, à cette heure de la nuit, à cette heure la plus sombre où le monde paraît finir. Sa petite voix chante. « Oh, jour, tu reviendras, tu viens déjà, année nouvelle, te voilà !» Et l'espoir, sous ses chaudes ailes, couvre la nuit d'hiver glacée et l'attendrit. Je suis tout seul à la maison, mes enfants sont à l'église. Pour la première fois, je n'y vais point. Je reste avec mon chien Citron et mon gris chaton Patapon. Nous rêvassons et regardons le feu lécher la cheminée. Je rumine ma soirée. Tout à l'heure, j'avais près de moi ma couvée. Je contais à Glody, qui faisait les yeux ronds, des histoires de fées et de bouts de canard et de poussins pelés, et du garçon qui fait fortune avec son coq, en le vendant aux gens qui vont dans leur charrette chercher le jour pour les charrier. Nous nous sommes bien amusés. Les autres écoutaient et riaient, et chacun ajoutait son trait. Et puis l'on se taisait par moments, épiant l'eau qui bout, les tisons, et sur la vitre les frissons des blancs flocons, et sous la cendre le grillon. Ah, les bonnes nuits d'hiver, le silence, la tiédeur du petit troupeau serré, les rêveries de la veillée où l'esprit aime à divaguer. Mais il le sait, et s'il délire, c'est pour rire. À présent, je fais mon bilan du bout de l'an, et je constate qu'en 6 mois, j'ai tout perdu. Ma femme, ma maison, mon argent et mes jambes. Mais le plus amusant, c'est que lorsque, à la fin, j'établis ma balance, je me trouve aussi riche qu'avant. Je n'ai plus rien, dit-on. Non, plus rien à porter. Je suis délestée. Jamais je ne me suis sentie plus frais, plus libre et plus flottant au courant de ma fantaisie. Qui m'eût dit, l'an passé, cependant, que je le prendrais aussi gaiement? Avais-je assez juré que je voulais rester jusqu'à ma mort maître chez moi, maître de moi, indépendant, et ne devant qu'à moi mon gîte et ma pitance, et le compte de mes extravagances? L'homme propose. Finalement, les choses tournent tout autrement que l'on voulait, et c'est juste ce qu'il fallait. Et puis, en somme, l'homme est un brave animal. Tout lui est bon. Il s'ajuste aussi bien au bonheur, à la peine, à l'abondance, à la disette. Donnez-lui 4 jambes, ou prenez-lui ses 2. Faites-le sourd, aveugle, muet, il trouvera moyen de s'en accommoder. Et dans son aparté, de voir, d'entendre et de parler. Il est comme une cire qu'on étire et qu'on presse. L'âme la pétrit à son feu. Et c'est beau de sentir qu'on a cette souplesse dans l'esprit et dans les jarrets, que l'on peut aussi bien être poisson dans l'eau, oiseau dans l'air, dans le feu salamandre, et sur la terre un homme qui lutte joyeusement avec les quatre éléments. Ainsi, l'on est plus riche, plus on est dépourvu, car l'esprit crée ce qui lui manque. L'arbre touffu que l'on élague monte plus haut. Moins j'ai et plus je suis. Minuit, l'horloge tinte. Il est né le divin enfant. Je chante Noël. Jouez au bois, sonnez musette. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant. Je m'assoupis et fais un somme, bien calé, pour ne tomber dans le foyer. Il est né au bois, jouez, sonnez, musettes, amusez. Il est né le petit Messie. Mais si j'ai moins, et plus je suis. Épiphanie. Je suis un bon farceur, car moins j'ai et plus j'ai, et je le sais très bien. J'ai trouvé le moyen d'être riche sans avoir rien, riche du bien des autres. J'ai le pouvoir sans charge. Que parle-t-on de ces vieux pères qui, lorsqu'ils se sont dépouillés, lorsqu'ils ont tout donné à leurs enfants ingrats, leurs chemises et leurs chausses, sont délaissés, laissés, et voient tous les regards les pousser à la fosse. Ce sont de fichus maladroits. Je n'ai jamais été, ma foi, plus aimé, plus choyé que dans ma pauvreté. C'est que je ne suis pas si bête que de me dépouiller de tout sans rien garder. N'est-il donc que sa bourse à donner? Moi, quand j'ai tout donné, je garde le meilleur, je garde ma gaieté, ce que j'ai amassé en 50 ans de promenade, en long, en large de la vie, de belle humeur et de malice, et de folle sagesse ou de sage folie. Et la provision n'est pas près de finir. Je l'ouvre à tous, que tous y puisent. N'est-ce donc rien? Si je reçois de mes enfants, je donne aussi. Nous sommes quittes. Et s'il advient que celui-ci donne un peu moins que celui-là, l'affection fournit la point. Et du compte, nul ne se plaint. Qui veut voir un roi sans royaume, un Jean sans terre, un heureux coquin? Qui veut voir un brognon de Gaulle, qu'il me voie ce soir sur mon trône, président le bruyant festin? C'est aujourd'hui l'épiphanie. L'après-midi, on vit passer dans notre rue les trois rois mages, leur équipage, un blanc troupeau, 6 pastoureaux, 6 pastourelles qui chantaient. Et les chiens du quartier braillaient. Et ce soir, nous sommes à table, tous mes enfants et les enfants de mes enfants. Cela fait 30 en me comptant. Et tous les 30 crient ensemble « Le roi boit !» Le roi, c'est moi. J'ai la couronne, sur mon chef, un moule à pâté. Et ma reine est Martine. Comme dans les saints livres, j'ai épousé ma fille. Chaque fois que je porte à ma bouche mon verre, on m'acclame. Je ris, j'avale de travers. Mais de travers ou non, j'avale et n'en perds rien. Ma reine boit aussi, et gorge nue fait boire à son rouge téton son rouge nourrisson. Mon dernier petit-fils, braillant, buvant, bavant et étalant son cul. Et le chien sous la table jappe et lape la jatte. Et le chat, en grondant et faisant le gros dos, se sauve avec un os. Et je pense, tout haut, je n'ai ma pensée bas. La vie est bonne, oh mes amis. Son seul défaut est qu'elle est brève. On n'en a pas pour son argent. Vous me direz, tiens-toi content, ta part est bonne, et tu l'as eue. Je ne dis non. J'en voudrais deux, et qui sait? Peut-être que j'aurai, en ne criant pas trop haut, un second morceau du gâteau. Mais le triste, c'est que si moi suis encore là, Tant de bons gars que j'ai connus, où sont, hélas? Dieu, comme le temps passe, et les hommes aussi. Où est le roi Henri et le bon duc Louis? Et me voici parti sur les chemins du temps jadis, à ramasser les fleurs fanées des souvenirs. Et je raconte mes histoires, je ne m'en lasse, et je rabâche. Mes enfants me laissent aller. Et lorsqu'en mon récit un mot me manque, ou je m'embrouille, ils me soufflent la fin du conte. Et je m'éveille de mon songe devant leurs yeux malicieux. « Eh, vieux père, me disent-ils, il faisait bon vivre à 20 ans. Les femmes avaient, en ce temps, la gorge plus belle et fournie, et les hommes avaient le cœur au bon endroit, le reste aussi. Il fallait voir le roi Henri et son compain, le duc Louis. On n'en fait plus de ce bois-ci. » Je réponds. « Malin, vous riez, vous faites bien, il fait bon rire. Parbleu, je ne suis pas si fou que de croire que chez nous y ait 10 aides de vendanges et de gaillards pour vendanger. Je sais bien que pour un qui part, il en vient 3, et que le bois dont on fabrique les lurons, les gars de Gaulle, croit toujours dru, droit et serré. Mais ce ne sont plus les mêmes qu'on fabrique avec ce bois. 1000 et 1000 aunes on taillera jamais, jamais ne referoi Henri mon roi, ni mon Louis. Et c'était cela que j'aimais. Allons, allons, mon colas, ne nous attendrissons pas. Larme à l'œil, eh, grosse bête, est-ce que tu vas regretter de ne pouvoir toute ta vie remâcher la même bouchée? Le vin n'est plus le même. Il n'en est pas moins bon. Buvons, vive le roi qui boit, et vive aussi son peuple biberon. Et puis, pour être franc, entre nous, mes enfants, un bon roi est bien bon. Mais le meilleur, c'est encore moi. Soyons libres, gentil François, et nos maîtres, envoyons paître. Ma terre et moi, nous nous aimons, nous suffisons. Qu'ai-je à faire d'un roi du ciel ou de la terre? Je n'ai besoin d'un trône ici-bas, ni là-haut. À chacun sa place au soleil et son ombre. À chacun son lopin du sol et ses bras pour le retourner. Nous ne demandons rien d'autre. Et si le roi venait chez moi, je lui dirais « Tu es mon hôte, à ta santé, assieds-toi là, cousin. Un roi en vaut un autre. Chaque François est roi, et bonhomme est maître chez soi. »